bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudadi.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Albert.
Bonjour Nagui.
Frédéric Sigrid.
Bonjour.
Bah alors, comme dit passion. Ils sont à la tout à l'heure. Et nos invités, Juliette Binoche et Vincent Macaigne. Bonjour, merci. Merci tous les deux de venir nous présenter ce film d'Olivia Sayas dans lequel vous jouez aux côtés de Guillaume Canet. Il y a également Nora Hamzaoui et Christa Terré. On va en parler de ce film qui sort ce mercredi. Ça s'appelle Double Vie. Et en plus, c'est au pluriel. C'est si vous dire si les choses sont encore plus compliquées. Nous allons parler de cette comédie signée à Sayas, suffisamment originale d'ailleurs pour mettre dans une même phrase Olivia Sayas et comédie, mon point de vue. Enfin, j'ai pas reconnu, je sais pas toi, c'est pas un film d'Olivia Sayas comme ceux qu'on a, pour lesquels on l'avait
oui,
reçu.
C'est vrai que ça diffère de Personal Shopper, de Sils Maria.
Ah, je suis pas d'accord, parce que Sils Maria, il y a quand même un
oui,
ton comédie,
un peu de comédie
par moment.
Ouais. Sauf que là, je trouve que c'est un peu plus poussé dans le marivaudage. Ouais. On va y venir dans la caricature de la bourgeoisie, un peu comme on peut l'avoir au théâtre. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ouais.
Et ça, c'est Vincent Macaigne.
C'est la version de Vincent Macaigne.
On va rester là-dessus.
D'abord, mes questions concernant nos invités, pour savoir si vous avez préparé un peu cette émission bande de fainéants.
Oh,
comment la maman de Juliette Binoche l'a surnommée parfois quand elle était enfant?
Julinou.
Non, mais ne dites
pas. Julinou.
Julinou. C'est pas vous qui jouez.
C'est sorti comme ça.
Non, mais c'est pas ça. Alors, c'est plutôt un surnom de profession.
De profession.
Serial killer.
Non.
Avocate.
Non. Ouais, c'est ça.
Ah oui, c'est
l'avocate, la doctoresse.
Ouais. Je sais pas, transistor, quoi.
Non.
Parler tout le temps.
C'est un métier, ça?
Non, je sais pas.
Non.
Un métier.
Non.
C'est en lien avec quoi?
Comédienne.
Les animaux, la nature?
C'est en lien à son activité.
Comédienne.
De l'époque.
La
non.
danseuse, la.
Non.
La joueuse, la.
Alors, on n'est pas loin. Joueuse de
l'artiste.
Quoi?
L'artiste. Joueuse de harpe.
Joueuse de quoi?
Pianiste. La coureuse.
La joueuse,
non.
L'instrument
de musique ou pas?
Pardon?
Trompette.
De tambour.
Non, pas l'instrument de musique.
Ah.
Non. Juliette!
La footballeuse.
Non.
C'est vrai.
Mais c'est pas possible.
La footballeuse.
Mais je ne regardais pas.
Ça m'est venu naturellement.
Non, c'est pas vrai.
Vous jouiez beaucoup au foot?
J'avais des cousins qui jouaient au rugby et ils m'apprenaient à jouer au rugby. Donc mon plaisir, c'était de les plaquer. Donc j'ai appris à les plaquer.
D'abord le rugby.
Je me jetais sur leurs jambes et ils étaient écroulés par terre deux secondes après.
C'est le principe du plaquage. Oui.
Voilà. Donc après, ma mère m'a appelée la footballeuse parce que j'ai un côté active, réactive.
Est-ce que d'abord vous aimez toujours le sport, vous le suivez, vous
avez... Pas du tout. Alors,
pas du tout.
Franchement, pas du tout. J'aime bien si je rentre dedans. Mais alors passer du temps dans la télévision, sauf bon si c'est les derniers, la Coupe du Monde, voilà.
Ça vous l'avez regardé.
Pour être avec tout le monde et mais sinon, franchement, j'ai.
Donc c'est plus pour la fête que vous avez suivi la Coupe du Monde de football que par amour du foot.
Ah oui, carrément. Ouais.
D'accord. Non, ouais. C'est pour savoir. Vincent Macaigne, lors du tournage de La Loi de la Jungle, aurait gardé un souvenir du tournage, mais n'a pas pu.
Il voulait garder
la machette.
Alors c'est pas loin.
La machette là, non.
Une rivière.
Un yucca.
Un animal.
C'est un costume.
Un tigre.
Ouais. Un petit singe.
Ouais, exactement.
Ah.
Vous avez rencontré un bébé singe en Guyane. Vous avez voulu le garder. On vous a dit non, c'est pas possible.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est fou. Il y a eu un bébé singe qui est venu face à moi et qui m'a suivi. Il est resté une journée avec moi.
Il vous a adopté en fait. C'est l'inverse.
Ouais.
C'est lui qui vous a désigné, qui vous
a
choisi.
Oui, mais après on l'a retiré quoi. Mais c'était assez triste. Hein. C'était un bébé singe qui avait perdu ses parents et qui nous suivait dans la jungle, en fait. Pour trouver
et vous pensez que le côté
parents.
Velu l'a attiré chez vous? Il s'est dit...
Et ouais, je pense, parce qu'il aimait bien ma barbe.
Bah oui.
Il se mettait... Non, c'est très triste.
Il se frottait, quoi, il faisait des câlins.
Ouais, il mettait sa tête dans ma barbe.
Mais nous, on l'a gardé, André Manoukian.
Mais ça... Amal.
Amal.
Oui, mais c'est un bébé. Ça a dû être un déchirement de se dire « je peux pas rester avec ».
Ouais, enfin, j'ai quand même compris, quoi, parce que l'animalier m'a dit, bah, s'il continue à être là, il va prendre goût aux hommes. Non, c'est pas ça. Je vais pas dire ça.
Quelle horreur! Non,
mais je veux dire avec un grand H, quoi.
Ah oui?
Pas l'être humain.
Ah oui, c'est ça.
À l'humain, ouais.
Et goût avec un grand G ou un petit.
Non, mais.
D'accord. Je vois. Donc, il ne va plus se méfier de l'être humain,
voilà, ouais.
Et donc, ça sera dangereux pour lui.
Et en plus, ses parents se sont fait tuer par des braconniers. apparemment.
Donc raison de plus pour qu'il se méfie de la nature humaine.
Mais il voulait peut-être se venger. Hein.
Oui.
Ah. Mais on sait pas tout. Hein.
Pourquoi Juliette Binoche récupérait-elle les poupées cassées de ses sœurs ?
Pour les revendre. Des cousines.
Ou des cousines, oui.
Pour les vendre, non ?
Non. Alors, pour les réparer indirectement.
Pour les opérer.
Oui, exactement. Je vais accepter ça. Pour jouer au docteur avec.
Ouais. Bah oui.
Elles allaient mieux
après. Cassées,
Vous les réparer vraiment.
Ce qui était important, c'est que je me crée un monde. On avait des lits superposés, donc je mettais des draps autour, voilà, et puis je faisais tout un petit hôpital avec les poupées cassées.
Trop mignon, j'adore l'idée. Qu'est-ce que Vincent voudrait changer dans le festival de Cannes et un peu les Césars aussi.
La montée des marches, le prix, la cérémonie,
la façon de
remettre
l'âge des habitants de Cannes.
Non.
Le trophée, non.
Non.
D'aller chercher sa distinction.
Les costumes.
C'est drôle, mettre un escalator. Très bonne blague.
La tenue vestimentaire.
Exactement. Vous dites, ils sont tous habillés comme des pingouins. Pourquoi chacun ne vient pas habillé comme
il est dans la vie? En fait, on est tous obligés de s'habiller.
C'est obligatoire de mettre un nœud papillon.
Ouais, des robes de soirée. Et donc, des fois, il y a des films qui se font vraiment sans argent, sans rien. Et des fois, je trouve ça un peu étrange de tout ratiboiser.
Uniformisé avec un smoking et des robes de soirée.
Par l'argent.
Et par le haut, entre guillemets.
Par le haut, ouais.
Enfin, tu peux le louer ou alors on peut te le prêter.
Hein, on me le prête.
Bah oui, c'est ça.
Je pense que les trois quarts des actrices et des acteurs ont des vêtements prêtés dans ces cas-là. Même des bijoux
c'est
prêtés. C'est ça.
On va
au bout du.
Il faut tout rendre.
C'est étrange parce que c'est souvent des films de cinéastes, d'auteurs qui.
Oh bah, la citrouille. Qu'est-ce que je fais? Bah, pourquoi c'est la citrouille?
C'est très radiophonique.
Oui, mais j'ai rajouté le bruitage.
J'ai mal à
l'argent.
Oui,
non, mais on a tout de suite compris l'argent. Vous avez cru que vous étiez invité, en fait.
Vincent, vous avez même déclaré, je ne sais pas si vous en avez parlé avec lui sur le tournage. Vous avez dit, je trouve ça hyper étrange et politiquement bizarre qu'au César ou à Cannes, on force les gens à s'habiller comme Guillaume Canet.
Ah, bah ouais, c'est possible.
C'était votre repère de.
Ouais, je sais pas si
de la classe.
Si, par rapport à Guillaume Canet ou quoi, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même étrange parce qu'en fait, on fait des films. Enfin, il y a des films de cinéastes où on a du mal à trouver l'argent pour pouvoir le faire. Et du coup, on nous oblige à nous habiller d'une certaine manière, quoi.
Qui a dit, en parlant d'elle, en parlant de Juliette Binoche, c'est la plus grande, elle dépasse toutes les autres. À part moi.
Un metteur en scène un comédien, comédienne?
Non.
Emmanuel Macron.
Pas loin.
Giscard, Mitterrand.
Ouais. Mitterrand.
Exactement, François Mitterrand.
Ouais, Mitterrand. Ouais.
François Mitterrand, c'est Georges
Barbier.
C'est Georges Barbier-Damou qui le raconte dans son livre. Il aurait dit donc c'est la plus grande, elle dépasse toutes les autres. Le président qui vous fixait, dirons-nous, ça devait être gênant lors d'un dîner, vous déjeuniez,
on s'est croisés à deux occasions. Et j'ai eu déjà l'occasion d'en parler, mais une fois dans une librairie, parce que j'allais regarder j'ai une collection de bouquins de peinture, j'adore ça, et donc j'étais en train de regarder, et à un moment donné, j'avais vraiment la tête dans le livre, et à un moment donné, j'ai entendu « Bonjour, Monsieur le Président », et ça m'a fait rigoler intérieurement, j'ai dit « Ouais, président de quoi ? Président de casino ?»«
Ils sont tous présidents
de Total, je ne sais pas quoi. » Bref, et à un moment donné, je lève la tête et il était en face de moi, donc j'étais hyper étonnée. Et on a commencé à parler parce que sa femme était venue voir La Mouette de Tchekhov que je jouais ou que je venais de terminer au théâtre de l'Odéon. Et il m'a invité peu de temps après à aller en Tchécoslovaquie pour la sortie d'Insoutenable légèreté de l'aide, qui est d'après un roman de Kundera qui est tchèque.
C'est troublant que déjà l'image entre guillemets du président de la République plus Mitterrand, on sait qu'il avait ce côté un peu séducteur aussi qu'il voulait. Est-ce qu'on est troublé dans ces cas-là d'être
j'ai jamais été, je peux te dire, impressionné en fait.
D'accord. Par le rang de qui que ce soit.
Par n'importe qui d'ailleurs. Plus on est dans les yeux de l'un et de l'autre, et pour moi, il y a quelque chose d'absolument égal, mais à tous les niveaux sociaux. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans le fait d'être et d'être dans la présence l'un de l'autre. Donc, aussi bien pour Mitterrand que pour n'importe qui.
Y compris pour une actrice ou un acteur qui, par son jeu, pourrait vous impressionner. Vous n'êtes jamais troublé de la présence.
Non, parce que la responsabilité de jouer est beaucoup plus forte. Ce qu'on doit donner, c'est ça la vraie responsabilité, c'est ça l'engagement. Donc en face de quelqu'un, on est tout d'un coup, c'est pas la personne, l'acteur, mais ouais. c'est la personne qu'il joue, lui, dans le film. Mais d'ailleurs, j'ai rencontré le Dalai Lama, et c'est pareil, je l'ai fixé dans les yeux, mais ça, il l'a pas supporté. C'était très bizarre.
Étonnant,
oui. Oui, parce qu'il est allé, j'étais à côté de Jean-Claude Carrière, il est venu directement à côté de Jean-Claude, parce qu'ils avaient fait un film. Et moi, je ne peux pas dire qu'il m'a ignoré, mais il y a quelque chose dans le genre. Et peut-être c'est le fait de cette impunité de pouvoir regarder sans... Mmh. Voilà, sans...
C'est étonnant venant de quelqu'un comme lui,
oui.
en plus, qui a cette image d'ouverture.
Ça m'a étonné la première, mais moi, je...
C'est un même avant tout, hein, il était peut-être un peu ému. Hein.
Un peu impressionné. Non, il peut être un peu impressionné.
Non, je suis...
Il enfin, est un peu misogyne aussi.
Après, est-ce que culturellement...
C'est, non, c'est peut-être le ouais. fait d'être soi et de ne pas justement avoir de hiérarchie à escompter, quoi. Oui, nous sommes tous sur Terre avec cette humilité d'être et on apprend tous, d'ailleurs.
Oui, ça enlève pas le respect, d'ailleurs.
Non, pas du tout. Au contraire, c'est la joie d'être en présence l'un de l'autre.
Moi, je crois que c'est un salaud d'aller.
Non, je dirais pas ça quand même. Exagéré, là, un petit peu.
Il y a une citation. Vous respectez rien, mais c'est pas possible. Une citation de François Truffaut que Vincent Macaigne aime à se rappeler. Je vais peut-être vous la commencer. On ne peut plus être des amis le jour où j'ai. Pardon. On ne peut plus être des amis, oui, c'est ça. Le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas te dire.
Adieu.
Je t'aime.
Merci.
Non.
Oh, va-t'en.
Attends, vas-y, répète. S'il te plaît.
Rends-moi l'argent.
La vérité.
Je ne peux plus. T'as compris pourquoi je suis pas comédien. On ne peut plus être des amis le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas te dire.
La vérité.
Te dire la vérité, merde, te dire.
Ouais. Ouais. C'est ça, exactement. Mais pour aller au bout, c'est que je n'aimais pas tes films. Ah. C'est-à-dire que c'est Truffaut. Alors je ne sais pas à qui s'adressait particulièrement cette phrase, mais vous n'avez pas envie de vous embrouiller, en tout cas vous, avec des amis acteurs, metteurs en scène, quand vous allez au théâtre pour dire bah j'ai pas aimé la pièce, j'ai pas aimé le film.
Si j'ai pas envie. Bah non, j'ai pas envie de m'embrouiller avec les gens, non.
Non, j'entends. Vous aimeriez pouvoir leur dire la vérité quand vous n'aimez pas.
Non, mais je l'ai dit, la vérité. Mais c'est vrai que, ceci dit, c'est une marque d'amitié de dire ce qu'on pense vraiment et d'avoir aussi le temps de le dire. Parce que finalement, les amis, on a le temps de parler de ce qu'on a fait.
Alors ça, pardon, c'est valable pour, je sais pas, pour la feuille de salade coincée entre les dents, un pote qui vous dit t'as une feuille de salade coincée
entre les dents. Pour les crottes dans le nez.
Voilà, les crottes dans le nez aussi, tout ça. Oui, c'est ainsi.
C'est moi, j'en ai.
Pour un artiste.
Je dis ça.
Le visage dégoût de Juliette, c'est pas mal. Là. L'expression était bien.
Pour un artiste qui vient de son point de vue, de tout donner sur scène pendant deux heures, lui dire.
Non, c'est impossible de
j'ai
dire.
J'ai vu ta pièce. C'est pas possible.
C'est impossible. Non mais ça c'est normal, mais ça c'est de la...
Mais c'est ce que veut dire Truffaut aussi, j'imagine.
Non mais je me demande si c'est pas... J'ose pas le dire, mais je me demande si c'est pas Godard qui l'a dit à Truffaut.
Ah c'est l'inverse,
mais j'ose pas le.
En plus c'est pas le bon auteur.
Mais moi je me suis basé sur une interview de Vincent Macaigne, donc j'ai fait corrompre.
La source c'est pas bonne. Mais vous, est-ce que vous attendez de vos amis ou de vos proches qu'ils vous disent avec sincérité...
Ah oui.
Si vous en trouvez bon ou pas dans un film.
Ah non, je demande même pas. Enfin, les gens ont le droit de me trouver nul. Hein. Non, mais je pars du fait que les. Mais par contre, les amis, on a des discussions et c'est agréable d'avoir un avis critique par rapport à ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que c'est souvent pas très bon ce que je fais.
En tout cas, c'est pas le cas dans Double Vie. C'est pas le cas dans Double Vie.
Et au théâtre, c'est pas vrai non plus. Non
mais je vois les gens.
Les rôles, c'était limite quand même.
Mais toi, t'es pas un ami, ça, donc ça va. Tu peux rien dire. Dans ce nouveau film d'Olivia Sayas, Double Vie, elles sont au pluriel, c'est Double Vie. C'est l'histoire d'un éditeur joué par Guillaume Canet et vous, son épouse, qui est à la fois une comédienne de série et à la fois son époux. Enfin, dans votre vie professionnelle, vous êtes comédienne dans une série. Alors, ça dépend flic ou pas flic. Ça dépend à quel moment du film on se situe. Au début, elle dit
juste. Les flics. Là, les flics.
Elle rejoue la scène, parfait. Donc, lui, il est dans son boulot déjà entre deux vies, puisqu'il est éditeur. Il se demande comment se tourner vers le numérique, vers le e-book, et vers les nouvelles applications et les nouvelles données commerciales avec les auteurs. Il a une double vie parce que il trompe sa femme. Sa femme elle-même a une double vie puisque déjà elle est actrice. Actrice a une double vie. Ça joue un rôle.
On va pas tout mélanger. Nagui.
Non, mais elle a factuellement une vraie double vie avec le personnage que vous incarnez, Vincent Macaigne.
Mais elle le trompe aussi. Puis alors, le seul qui pourrait avoir à qui on demanderait d'avoir une double vie, puisque vous, Vincent Macaigne, vous êtes auteur et on aimerait que vous ayez votre vie et puis la vie du romancier. Bah le problème, c'est que dans vos romans, vous dites tout et vous racontez.
J'ai pas vu ça comme ça, mais c'est intéressant, ouais.
Et vous n'avez pas votre double vie puisque vous êtes unique.
Non, mais mon personnage, je crois qu'il a une double vie puisque je crois que ça passe inaperçu quand même. Hein.
Ouais.
C'est ça, alors que tout le monde, en transparence, sait très bien ce que vous écrivez. Oui. D'ailleurs, je crois que la phrase est dite dans le film. Vous dites la vérité dans vos romans et vous montez dans la vie.
Voilà, c'est ça, à peu près. Non, mais c'est assez drôle parce qu'il y a il est persuadé que personne n'est au courant. Donc, évidemment, il y a des scènes assez drôles où même il avoue à sa femme, qu'il la trompe, elle le sait déjà.
Joué par Nora Hamzaoui.
Nora Hamzaoui, ouais.
C'est la seule, d'ailleurs, qui n'a pas de double vie.
C'est vrai.
C'est ça.
Oui, c'est vrai. Mais tu sais, la scène où en fait, Juliette, c'est pas Juliette Binoche, hein, pardon.
Selena.
Selena, voilà. Ouais. Selena me dit qu'on arrête. Je trouvais ça extraordinaire ce que faisait Juliette Binoche parce que elle se met à pleurer.
Elle est dingue.
Pas sur le fait qu'elle me quitte, mais sur le fait qu'elle me demande de pas écrire.
Exactement.
L'histoire. Mais en fait,
je crois que c'est mélangé, hein.
Oui, mais en tout cas, je trouve ça assez beau, cette fin de scène et sublime.
Parce que ça tue en fait sa relation avec son mari.
Dingue.
Donc, en fait, c'est une situation à trois niveaux pour moi, de te quitter dans la scène, de te demander d'arrêter d'écrire sur la vérité et ce qu'on traverse, et à la fois de sauver ma relation avec mon mari.
C'est ça, et de ne pas supporter de se retrouver héroïne du prochain livre contre son gré.
Et puis de menacer quand même. C'est ça. Ouais. Parce que je te menace.
Ouais. Oui, c'est plutôt bien. Ouais.
Cette scène est l'une des plus fortes du film, parce que c'est une scène d'amour, clairement. C'est une scène de rupture, mais on sent tout l'amour qu'il y a encore dans votre personnage, Vincent Macaigne. On sent aussi qu'il y a une...
C'est une douleur de séparer de son amant, ouais. Parce que c'est un sacrifice pour son couple avec son mari, ouais.
C'est l'une des scènes les plus fortes. Il est qualifié de comédie, ce film. C'est léger. Tout à l'heure, on parlait de situation vaudevillesque, mais il y a aussi un fond
qui est tragique, la tragédie nous permet quand même d'avoir une relation à l'existentiel, à nous poser des questions, mais sous couvert d'une sorte de légèreté de ces personnages qui se répondent dans un milieu soi-disant intellectuel, mais où toutes les trahisons sont sous-jacentes et sont en fait le soutien de tout cet art qui est reconnu de l'extérieur.
Oui, parce que la double vie, elle est conjugale, elle est amicale, et puis ce que j'ai trouvé très très fort dans le film, finalement, c'est pourquoi le milieu de l'édition, le questionnement sur la modernité, sur le progrès, la transformation, là aussi, on est dans une sorte de double vie, et donc il y a une métaphore toujours en parallèle, parce que finalement, le texte, c'est de ça dont il est question aussi dans le film, le texte, c'est le tissu au sens étymologique, c'est l'enlacement, et donc c'est le tissu, les liens amoureux, les liens amicaux, et j'ai trouvé, et c'est marrant parce que j'ai vu le film et c'est après, le film a posé beaucoup de questions, énormément de questions, parce qu'on assiste à beaucoup de scènes de discussion avec Laurent Poitronneau, notamment, que j'adore, je fais un petit big up à Laurent Poitronneau, sur la pratique de la lecture, la tablette, le livre, ce qu'on y perd. On voit que chacun est à la fois contraint entre cette envie de progrès et cette crainte de perdre le côté charnel et tactile pour aller vers une forme de virtualité. Et finalement, ça fait vraiment écho à toutes les histoires d'amour, à toute la transformation de l'individu dans le film. J'ai trouvé ça hyper beau, hyper fort, quasiment conceptuel en fait.
Ouais. Et à la fois, le film, il est soutenu par une écriture qui est
Très écrit.
C'est très, écrit, mais avec une intelligence et une rapidité. Enfin, entre les personnages, ça n'arrête pas de se renvoyer comme au ping-pong. C'est chacun son tour, mais
ça se voit au montage.
Avec l'envie toujours de surenchérir, d'être plus intelligent que son voisin ou que ce voilà. Et de ce fait, donc c'est une espèce de brouhaha de mots, mais avec une intelligence. Et des rapports sous-jacents qui font la comédie.
Vincent, je trouve que, enfin, quand j'ai lu le scénario, ça me faisait penser un peu à des pièces de Tchekhov, en fait. Et Tchekhov, tu vois, il pensait écrire des comédies, et puis on peut le jouer d'une manière très comique et en même temps dramatique. Ouais. Et il y a cette mélancolie-là parce qu'en fait, il parle d'un monde qui s'éteint, qui se transforme.
Et puis qui leur échappe à tous autant qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment, ils se sentent pas chacun et chacune maître de leur destin, de leur propre métier, que ce soit la comédienne qui pense subir un rôle dans une série en disant je suis prisonnière, prise dans un carcan. Lui qui subit, je parle du personnage de Guillaume Canet, l'éditeur, qui subit l'arrivée du numérique. Vous qui subissez le bon vouloir ou non d'un éditeur d'être publié ou de ne pas l'être. Nora Hamzaoui, qui subit aussi
les affres de la
politique. Chacun finalement se retrouve comme une espèce de boule de flipper baladée en jouant un peu aussi les coques avec je reste fort au milieu de ça, mais en étant
oui, et puis surtout le fait, il parle d'une génération qui n'a pas connu en fait le numérique et qui apprend, enfin c'est notre génération, mais qui apprend à vivre avec en fait.
Soit on résiste, soit on s'adapte, mais en tout cas on peut osciller entre ces deux positions en permanence en fait.
Ouais. Mais dans le film, c'est quand même la vie, l'amour, enfin, du côté de Juliette et de l'éditeur, du côté de l'auteur. Et
très ancré dans notre société actuelle, puisqu'on parle beaucoup de Twitter, on parle beaucoup de mails, d'échanges aussi, de tromperies, et puis de politique aussi.
La manière dont la politique.
Et qu'est-ce qu'ils veulent les gens, la manière dont les gens sont utilisés. Alors, le film a été forcément tourné avant les Gilets jaunes, mais d'un coup, ça prend une autre résonance. Le côté, les gens, ils ont rien à dire. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens? La politique, il faut qu'elle prend du temps avant d'agir, avant de changer quoi que ce soit. C'est sur le long terme, la politique, et pas dans l'immédiat. D'un coup, là, avec tout ce que l'on est en train de vivre dans notre société, ça prend encore une dimension presque importante, parce que c'est une photo à un instant T de la société dans laquelle on vit, ce film.
On est toujours dans une espèce de mutation et de changement encore plus maintenant, parce qu'on est confronté à des murs solides.
Ouais.
Et de par les différences de niveaux sociaux, aussi la conscience de le monde qu'on s'est créé, techno-scientifique, et de cette espèce d'emmurage pollueur, j'ai envie de dire, et puis la conscience qui doit se réveiller, parce que si on veut pas foncer dans le mur, ou en tout cas on y va, mais il faut penser à se faire un petit peu moins mal. Donc je pense que l'écologie est une nécessité totale. C'est pour ça que je me bouge dans tous les sens, parce que moi j'ai envie que on soit tous dans la rue et qu'on change les choses, que les politiciens prennent leur responsabilité. On a besoin de transition. L'agriculture industrielle ne peut pas être... on est dans une impasse totale. Donc, il faut repenser les choses, changer et aller dehors pour que ça change.
Il ne faut pas opposer, si je peux me permettre, l'écologie avec le social non plus. Parce qu'on peut croire que l'écologie n'appartient, entre guillemets...
Mais pas du tout.
Voilà.
C'est-à-dire que les premiers qui vont souffrir de cette impasse de la pollution, de cette industrie, de cet emmêlage technoscientifique, ce sont les plus démunis. Et ce n'est pas forcément tout de suite en France, mais ça va être surtout dans les autres pays. Donc il doit y avoir une alliance planétaire qui doit se construire. Et en changeant notre quotidien tous les jours, c'est une façon d'être en rapport avec l'autre qui n'a pas ce privilège que nous avons, parce que nous sommes seulement 20% des privilégiés de ce monde industriel. Et il y a les 80% qui n'ont pas ces privilèges-là. Mais ce sont eux qui vont être les plus...
Les favorisés et qui vont subir, oui. Mais quand vous dites je me bouge pour justement que les choses changent concrètement.
Il y a des manifestations tous les mois. Ce sont des marches pour le climat. Il y a des, l'affaire du siècle, c'est sur, sur Internet, on peut participer. On met en justice, il y a 4 associations qui mettent en justice le gouvernement, ouais. Parce que la COP21 n'a pas les résolutions et ce qui a été signé à la COP21 n'est pas respecté. Et donc, en Hollande, ça a marché. Il y a des associations qui ont mis en justice le gouvernement hollandais et ils sont obligés maintenant de changer et d'anticiper les choses et de changer l'énergie fossile.
On est plusieurs millions à avoir signé cette pétition.
2 millions. Ouais, et, 2 millions. Mais et continuons parce que c'est comme ça, c'est la société civile qui réussira à changer ce qui est mis en place. Les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, la mondialisation fait que nous sommes des prisonniers de tout ce système. Et c'est à nous, nous avons le pouvoir, comme les Gilets jaunes, de sortir et de dire « c'est pas possible, il faut bouger ». Moi, je suis pas évidemment la seule. Il y a plein de jeunes d'ONG qui sont hyper actifs. Et la génération qui arrive de jeunes, elle est beaucoup plus consciente que les générations plus âgées. Voilà.
C'est leur intérêt, c'est leur avenir immédiat. Donc,
Et bien, c'est notre intérêt aussi, parce qu'il s'agit de nos enfants, de nos arrières, de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. L'énergie nucléaire, on dit que c'est une énergie propre, mais c'est complètement fou de penser une chose pareille.
Centrales.
Pardon?
Les déchets.
Les déchets, c'est une
déchets.
Bombe à retardement pour les générations futures. C'est une abomination terrible. On ne peut pas dire que c'est une énergie qui va remplacer les énergies fossiles. Le vent et le soleil sont des énergies gratuites. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas là-dedans? Les politiques doivent faire vraiment cette transition entre l'énergie d'aujourd'hui, ce qui se passe, l'espèce d'emprisonnement dans lequel nous sommes, pour aller vers des possibilités pour les générations futures. Quand on va dans le mur, normalement, en voiture, on appuie sur le frein. Ouais. Eh ben, il faut décélérer. L'idée de progrès, l'idée de croissance est une idée, mais ce n'est pas une réalité. Donc, il faut se réveiller.
Excusez-moi, mais c'est vrai.
Ça me fait penser
parce que l'idée de la démocratie, c'est un masque. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans un système de pouvoir et économiquement enfermé. Donc, il s'agit de nous réveiller.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Il y a de l'industrialisation, vous en avez parlé. On est plus guidé par le commerce que par l'intérêt de la planète.
Et je vous assure que chaque geste que nous faisons dans la vie de tous les jours
aussi petit
change les choses.
Aussi petit soit-il.
D'aller acheter de la nourriture industrielle, excusez-moi, c'est une façon de participer. Mmh. Et je sais que les agriculteurs qui font la grosse industrie, qui est 95% de l'agriculture en France, sommes seulement à 5% en bio, c'est énorme. Ils doivent aider à faire cette transition. Ils sont coincés eux-mêmes parce qu'ils sont rentrés dans un système.
Frédéric ?
Et là, je me fais l'avocat du diable parce que moi, je suis complètement d'accord avec vous. Mais en fait, à chaque fois que des personnalités comme vous prennent position pour ce genre de cause, la première réaction que vont avoir énormément de gens, ça va être de dire « Oui, mais c'est une élite artistique. »
Mais pas du tout. C'est vraiment... Je vous assure que moi, je pourrais aller sur un transat.
Mais quel est votre intérêt à dire
quel
ça
est mon intérêt
à prendre position
qu'il y a un moment donné, moi, je ne peux pas aller me reposer.
C'est justement pour que vous puissiez le dire, pour que les gens puissent comprendre. Parce que
quand on ne bouge pas en tant qu'artiste, on nous le reproche aussi.
On vous le reproche.
Et quand on bouge, on nous le reproche aussi. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter. Moi, je risque quelque part, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'écologie. Je rentre vraiment dans un monde qui est important pour moi, parce que je vois les conséquences que ça a au jour d'aujourd'hui, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et alors 50 ans, n'en parlons même pas. Mm-hmm. Mais il me semble important de bouger maintenant, parce que il faut se réveiller maintenant. Mm-hmm. On ne va pas se réveiller dans 20 ans. Ce sera déjà trop tard.
Et sans quoi on portera une forme de responsabilité dans 20 ans de se dire qu'on n'avait pas agi au moment
où
on était en mesure de le faire.
On peut pas dire, on n'était pas au courant, on ne savait pas et tout ça. C'est pas possible.
Mais on le sait depuis 50 ans. Hein. Les phrases sont répétées.
Et il y a des grandes...
René Dumont, à l'époque où il faisait...
Il se faisait insulter, traîner dans la boue et ridiculiser alors qu'il avait totalement raison.
Alors qu'il avait totalement raison. Pierre Rabhi, pareil. Enfin, il y a des moments où les choses qui sont dites doivent être entendues et on peut agir.
Et
chacun.
Oui,
niveau.
Voilà.
Chacun
c'est
à son niveau.
Surtout qu'il y a déjà beaucoup de gens qui agissent. C'est-à-dire la société civile est déjà partie prenante de tout ça.
Mais moi, j'ai confiance dans nos gamins. Je les trouve beaucoup plus.
Ouais, mais il faut bouger. Nagui, il faut aller à la marge du climat. Il faut bouger.
Oui. Vous êtes très, très active, Juliette.
Mais j'essaye, mais à la fois, j'aimerais qu'on soit le plus nombreux possible.
Mais la marge du climat, il y avait beaucoup plus de monde que les gilets jaunes ce jour-là. La manif féministe aussi. Et les médias n'ont pratiquement pas parlé.
Je t'interromps parce que déjà, excusez-moi, la notion de les médias, ça ne veut rien dire. Les chaînes d'information, ça ne veut rien dire non plus parce que tout d'un coup tu fais une généralité. Donc soit tu pointes un responsable et tu l'indiques, mais dire les artistes, les médias, ça ne veut rien dire et ça mène justement les gens à penser à une forme de théorie du complot. Donc je trouve que on a une responsabilité à ce micro.
Mais je veux dire en général, donc quand tu regardais la télé ce jour-là, ils en parlaient très peu.
Je suis moi-même à l'antenne ces jours-là, donc je peux te dire aussi comment on traite l'information. C'est-à-dire qu'à un moment, moi on me reproche par exemple qu'au journal de 13h, on n'ait pas parlé de la marche du climat à ce moment-là. Sauf que je peux difficilement parler d'un événement qui a lieu à 14h. Ça, il faut l'expliquer. Moi, je fais preuve de pédagogie, même quand je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Non, sur les infos du soir, il faut aussi que tu comprennes quelque chose. C'est-à-dire que quand on a eu une grosse journée avec les gilets jaunes, où il y a pu avoir des violences, à un moment, on ne multiplie pas les forces dans une rédaction pour couvrir les sujets de façon responsable et de façon rigoureuse. Donc, ça ne veut pas dire que le sujet, on considère qu'il n'est pas important. Ça veut dire que, hélas, on a une forme de hiérarchie dans l'information et qu'il y a aussi, je ne dis pas que ça ne veut pas dire que ces préoccupations, nous, en tant qu'individus, elles ne nous concernent pas. Je dis simplement qu'il y a des règles qui parfois régissent ça, qui peuvent nous dépasser, qui peuvent faire croire qu'on s'en fout. Ce n'est pas vrai. Donc je trouve qu'avec un discours comme ça, on n'apporte rien. Je crois qu'on est tous suffisamment...
On a quand même le droit à la critique, sans pour autant tomber dans le complotisme qui est infâme.
Mais la critique, Albert, il faut qu'elle soit précise. Sans quoi, ce n'est pas de la critique, c'est un avis à l'emporte-pièce et ça ne conduit à rien, mis à part entretenir des gens dans une idée qu'on ne dit pas la vérité.
Pas faire des généralités.
Ouais. C'est juste ça.
On va revenir au sujet quand même.
Oui, il n'est pas soigné parce qu'il s'agit du changement dans le film de Bleu.
Absolument.
Il y a une phrase écologique d'ailleurs dans ce film, dite par votre personnage Vincent Macaigne en disant « J'ai pas vendu beaucoup de livres, c'est pas à cause de moi que la déforestation sera aggravée. »
C'est vrai.
Double Vie sort ce mercredi au cinéma avec nos invités Juliette Binoche et Vincent Macaigne et Jean-Dominique Besnéard. Ça va être un succès.
Yes, c'est sûr que ça va cartonner chez Vert. Les doubles vies, les chassés croisés de l'adultère. C'est un sujet qui fait mouche depuis Racine, La Biche, Guitry, Tchekhov, comme évoquait Vincent tout à l'heure. Et là, en plus, comme c'est subtilement servi par Juliette Binoche, bonjour Juliette, bonjour. Et Vincent Macaigne, salut Vincent, ça va super bien marcher. Et puis ça se passe dans le milieu de l'édition, un monde en phase avec la réalité, les gilets jaunes, le milieu du livre, cet objet qui a autant d'avenir qu'un migrant en pleine Méditerranée. Mais tout de suite, mon cher Nagui, après le maréchal Ganache, Père Albert, mais aussi Jean-Jacques Lang, Jean-Philippe Manœuvre, tous les cousins d'or. À mon tour, je tiens à vous féliciter pour le virage pris par votre émission.
Ah bon?
Super, vos résolutions pour 2019. Fini le babillage superficiel, les questions téléphonées. Oubliez la complicité showbiz, l'apologie du divertissement sans prise de tête. Maintenant, dans la bande originale, les guests... C'est du sérieux. Bon, moi, c'est vrai, je suis juste orthophoniste des stars.
Ça s'entend?
Mais je peux, oui, bien sûr, vous pouvez consulter. Mais je peux vous dire qu'inviter Juliette Binoche et Vincent Macaigne pour la promo d'un film c'est difficile à prononcer, c'était
bien. Appelez Olivier.
Oui, Olivier. C'est un sacré changement, un super challenge. Alors, ceci dit, ça s'est pas fait tout seul, mon cher Nagui. Juste avant l'émission, quand vous avez demandé il y a quoi au programme aujourd'hui? Un CD de Black M? Une pièce d'Anne Roumanoff? Une biographie de Didier Deschamps? Là, GNB, notre rédacteur chef, vous a répondu. Non, maître, c'est un film, comme d'habitude, avec des images qui bougent. Un film de quoi? Un film d'auteur. Putain, comment je vais faire? T'oublies que je suis tout petit. Ça mange pas de pain, ça. Leïla m'a dit que c'était du cinéma pour cinéphiles exigeants, quasiment conceptuel et qui lui pose beaucoup de questions. Oh là, je sens que je vais me faire yesh grave. Mais qu'est-ce qui m'a pris de te demander une programmation sérieuse? Je vais regretter 2018 où je pouvais crier au génie en invitant les comédiens de La Ch'tite Famille, des Tuches 3 et surtout Dalade 2, dont je maintiens, comme je l'avais dit à Kevin Adams ici même, que c'est un chef-d'œuvre. Bon, allez, passe-moi ta fiche et fais entrer la Binoche et la Macaigne. Voilà, chère Juliette Binoche, cher Vincent Macaigne, comment je prépare en 2019 la bande originale. Dans l'absence d'enthousiasme, voilà. Le mépris du cinéma de qualité, la haine des invités. Bonne émission quand même.
Je pense qu'on a fait le tour. Merci Albert Algoustan. France Inter, Nagui. La bande originale. Dans ce film, la double vie, au pluriel, Guillaume Canet, Nora Hamzaoui, Christa Terré, Pascal Grégory, on a oublié de le citer tout à l'heure aussi, extrêmement brillant, Lionel Drey, Sigrid Boisiz et Laurent
Poitrenaud.
Je te laisse le dire, tu es heureuse de le dire. Dans ce film écrit et réalisé par Olivier Assayas, dont il nous avait un tout petit peu évoqué d'ailleurs le projet lorsqu'il était venu parler de Personal Shopper il y a 3 ans. Non,
Personal Shopper, ça a 2 ans max. Ouais.
Ah bon, d'accord, non, j'aurais dit 3. D'accord, ok, très bien. Voici Frédéric Sigrist.
Bonjour à tous. J'ai lu qu'il y avait de plus en plus de parents qui faisait le choix de faire l'école à la maison. Et sincèrement, moi, de plus en plus, ça me tente. Parce que l'école à la maison, c'est un peu le télétravail du monde scolaire. Non, parce que, sincèrement, le cirque qu'on s'inflige tous les matins, nous les parents, ça n'a strictement aucun sens. Déjà, ton réveil sonne. C'est une aberration. Dans un monde parfait, moi, je dis qu'on devrait se réveiller quand on n'a plus sommeil. Les animaux, ils ont un cycle naturel. Le matin,
il sort d'une insomnie, c'est pour ça que
on est d'accord, donc. On devrait se réveiller que quand on n'a plus sommeil. On voit rarement le coq courir, tu vois, on dit, je suis à la bourre, pour faire cocorico. Le réveil, c'est la voie du productivisme forcené. C'est le diktat de la société marchande qui t'oblige à sortir de chez toi pour gagner un salaire qui va te servir à payer ton loyer ou rembourser un prêt. C'est une vie de con. Grosso modo, il n'y a pas une énorme différence entre ton réveil matin et un maton qui viendrait gratter les barreaux de ta cellule à 6 heures. Sauf que là, c'est toi qui te l'infliges tout seul. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais Frédéric, voyons, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais. Mais alors moi, je vous le dis, je n'ai absolument aucune envie de préempter l'avenir de quoi que ce soit. Si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ça doit vouloir dire que le passé appartient à ceux qui se lèvent tard. Donc moi, je vous laisse le réchauffement climatique, la surpopulation, les perturbateurs endocriniens et Mario Maréchal Le Pen, et je reste dans le passé avec Shakespeare, Caravage, Kubrick, Jordan. Bon, il y a Pétain aussi, mais... Et les autres, je vois ici, il faut qu'on soit à l'antenne à 11h et qu'on la rende à 12h30 pétante. C'est important, l'horaire. Mais sincèrement, on dit rien qui puisse pas attendre 15 ou 16 heures, hein. Faut arrêter de surévaluer l'importance de la ponctualité.
Je suis tellement d'accord avec toi.
À l'ère des podcasts, les gens, ils t'écoutent pas quand tu veux, mais quand ils ont le temps. Moi, je vois tous les matins, je m'extirpe de mon lit, j'ai une haleine de compost, j'ai les yeux chiasseux, je boite jusqu'à la salle de bain avec un bout de pyjama coincé dans les fesses. On est loin des réveils glamour, axe, laisser le charme agir. Hein. Moi, mes réveils, ça ressemble à une sortie de boîte et clairement, c'est pas moi qui conduis. Hein. Bon, immédiatement, faut que j'aille dans la chambre de mes enfants pour les réveiller. Et déjà, rien que ça, c'est d'une violence. Parce qu'ils sont vachement bien dans leur lit. Ils l'ont pas entendu, le réveil. Tu regardes leur visage endormi, clairement, ils sont paisibles. Moi, ma fille, les matins, pour la réveiller, on dirait un fonctionnaire qui essaie de négocier une augmentation de salaire. Je galère d'une force. Je sais pas où elle va, ma fille, quand elle dort, mais clairement, c'est un enlèvement. Bon, ensuite, je me vois les stresser. Dès le matin, je suis là, je suis chiante. Allez, dépêchez-vous de vous habiller. Non, pas le pantalon en velours. Aujourd'hui, il y a sport, mais le jogging. Le bleu, pas le noir, il est pas assez chaud le noir. Ta chemise, mais putain c'est pas vrai, t'as boutonné de lundi que le dimanche, viens ici. Mais bien sûr que t'as pas fait exprès, mais tu fais jamais exprès. Tu crois que t'as ça à faire tous les matins, vérifier si monsieur a bien boutonné sa chemise, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Franchement, mais tu me regardes gérer mes enfants le matin, jamais tu te dis qu'ils étaient désirés, hein? En plus, tout ça pour les emmener dans un système scolaire auquel fondamentalement je ne crois pas. L'école et moi, ça n'a pas été une grande histoire d'amour. Et pourtant, aujourd'hui, vas-y que je mets la pression à mes mômes pour qu'ils y aillent. Je suis un sataniste qui veut forcer ses gosses à faire du catéchisme. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller à l'école. Déjà de 1, parce qu'on pourra pas tous faire de la télé. Hein, et de 2, parce que savoir lire, écrire et compter, c'est la base. Mais ça prend pas 24 heures par semaine. Vous vous rendez compte de la foi qu'il faut avoir? J'envoie mon fils à l'école tous les matins en espérant qu'il soit attentif pendant 6 heures. Là où je sais qu'en 3 minutes de chronique, j'ai déjà perdu des gens. Vous n'avez une question de vous, tu vois, les invités, des fois ils savent même plus où ils habitent à la fin. Donc 6 heures de cours à être concentré, mais c'est pas du délire ça? Mais moi je sais qu'au fond, si j'envoie mes enfants à l'école tous les matins, c'est surtout que je peux pas les garder avec moi. C'est juste ça le truc. Je travaille, ma femme travaille, donc on sous-traite nos responsabilités. Allez-y, vous documentez pendant que nous on fait autre chose, quoi. Et c'est pas plus mal parce que mes enfants, jusqu'à maintenant, ils ont vraiment eu de super profs. D'autant plus étonnant quand on voit combien ils sont payés. Non, parce que moi, payé comme eux, je fais 15 minutes de cours et le reste, je m'en bats le steak. Hein. Attends, parce qu'après, tu dois taper les programmes qui changent tout le temps, l'inspection académique, les parents. Les parents. Les parents qui sont convaincus que leur fils est précoce parce qu'il mange la porte des toilettes avec ses dents. Mais, alors que c'est juste que des fois, t'as envie de dire non, il est pas précoce, il est con, votre gamin, c'est juste ça. Hein. Un métier tellement mal considéré que plus personne veut le faire. Du coup, le rectorat abuse de contractuels qui se retrouvent sans expérience à gérer 4 ou 5 classes. Donc, oui, pour le moment, j'accepte encore l'idée d'envoyer mes enfants à l'école publique parce que je sais qu'ils feront mieux que moi. Mais vu comment l'État français traite les profs à longueur d'année, eh ben il arrivera un moment où je me dirai peut-être, allez, on coupe le réveil, on fait une grasse mat, on l'a bien mérité.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et on sent le vécu, hein. Et on sent tellement le vécu, tellement. Et je pense que beaucoup de parents se sont retrouvés aussi dans ce que tu décrivais. Double vie, ce nouveau film d'Olivier Assayas sort ce mercredi avec Juliette Binoche et Vincent Macaigne qui sont nos invités. Je voulais revenir sur la scène justement où vous partagez tous les deux cette séparation après 6 ans, si ma mémoire est bonne, de tromperie, chacun vis-à-vis de votre couple. Est-ce que vous êtes revenu sur Vincent, sur les larmes de Juliette? Vous étiez surpris par le moment où elle se met à pleurer?
Bah oui, ouais, quand même. Ouais.
C'était pas prévu, c'était pas dans les didascalies, c'était pas écrit comme ça?
Non, en fait, le scénario d'Olivier Assayas, c'est vraiment sur le texte. Il est très bien construit, très bien écrit, très rythmé.
Il n'y a pas de didascalie dans ce
scénario. Ouais, il n'y en a pas, voilà. Donc en fait, on est toujours étonné.
Donc comment vous gérez alors comment gérer les intentions? Comment gérer les intentions? Ouais, on joue. Mais
En lisant le scénario, il y a des choses qui apparaissent, on les ressent, et puis après, et puis il y a la scène qui, de par l'écriture et notre situation, qui les choses viennent aussi naturellement. Mais c'est évident que pour moi, en lisant le scénario, en le quittant, c'est un amour. Certes, elle trompe son mari, mais elle l'aime. Elle aime les deux d'ailleurs. Elle aime son mari. Pour cette ils partagent ensemble une vie. Ils ont décidé de se marier à un moment donné. Ils ont des enfants. Un enfant, et ma relation avec le personnage de Vincent, il y a un amour, il y a un échange artistique,
elle est drôle, cette relation, elle est tendre.
Oui, elle est tendre, oui, voilà,
elle est superbe.
On peut aimer deux hommes, Juliette?
Je pense que c'est possible. Moi, ça m'est arrivé 6 mois, et ça a été l'enfer total, mais ça m'est arrivé une fois, ouais.
Non, je me permettais pas de vous poser la question de savoir.
Je vous réponds.
Ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est des relations. Enfin, tous ces personnages.
Tout le monde rigole et sourit, mais personne ne dit rien. Hein.
Parce qu'on a déjà eu ce débat. Bah, et alors,
ouais, moi aussi, j'ai aimé deux hommes.
Oui,
régulièrement.
Et c'était Carole Bouquet qui nous avait. Carole Bouquet avait toute une théorie autour du mensonge au sein du couple.
Oui, on était assez d'accord pour dire que c'était pas monochrome comme ça et qu'on pouvait très bien tomber amoureux de deux
différemment. Ouais.
En tout cas, dans le film, enfin, les relations entre les personnages sont des relations assez longues. Mm. C'est pas des relations de courte durée. Donc, en fait, c'est vraiment un déchirement.
Ce sont des histoires et pas simplement des aventures.
C'est pas petit, quoi. Donc, forcément, et le film a des grands sentiments quand même là-dedans et ils vont vers des choses assez grandes et essentielles, quoi. Tous les personnages du film. Et finalement, ce qui gagne dans tout ce débat sur le numérique, sur le monde, c'est la vie. C'est la force de la vie, la force de l'amour.
Oui, parce que même le personnage qui amène cette nouveauté du numérique ou du tout numérique chez l'éditeur, personnage joué par Christa Terré, elle-même trompe femme, puisque elle est amoureuse d'une fille. Elle la trompe avec son patron et elle va ensuite, entre guillemets, tromper son patron au sens professionnel du terme en laissant tomber cette boîte pour aller dans une autre boîte. C'est-à-dire qu'elle est plutôt sniper, quoi. Elle cherche l'efficacité, réussite à tout prix.
Oui, mais en même temps, on voit tous ces personnages pris dans leur vie et finalement dans tous ces troubles.
Elle dans la réussite professionnelle, ce qu'elle veut, c'est l'argent, le salaire.
Mais tous, en fait, mais ils ont une forme de recherche d'intégrité assez étrangement. Je trouve que dans tous les personnages, le film se finit sur quelque chose de très lumineux, de très clair pour chacun des personnages, parce que chacun essaie d'aller vers ce qui semble le plus juste et le plus doux pour les uns et pour les autres.
Mais tout le monde trompe tout le monde pour vous dans ce film.
Nora aussi, Nora Hamzaoui, je trouve qu'elle a une double vie. Vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être la seule. Alors, elle a pas une double vie conjugale, mais elle a une double vie du point de vue vie publique parce qu'elle est l'assistante d'un homme politique, qu'elle est vraiment animée par le bien commun. Elle est ce personnage qui défend le politique au moment où plus personne n'y croit. Et on parle encore de cette mutation, de cette transformation qu'elle subit de plein fouet, puisqu'elle se fait limite invectiver à chaque fois qu'elle va dans un dîner parce qu'elle représente le politique, qu'elle défend son candidat comme quelqu'un d'animé par de véritables valeurs. Et finalement, elle est aussi en double vie, au sens où elle a foi en lui. Et puis quand le pépin arrive, elle se demande à quoi bon tout ça.
Le pépin de l'homme politique qui se fait... Oui. Attraper.
Voilà, à quoi bon tout ça ? C'est-à-dire que sa foi, elle est mise aussi un peu à rude épreuve.
Oui, mais elle n'a pas double vie, justement. Elle est intègre et déçue par la trahison que va faire cet homme politique.
Ouais, mais est-ce
qu'elle
a une
patience angélique envers son mari, en
ouais.
vrai hein.
Ouais, en plus.
Elle accepte, son personnage accepte quand même quelque chose d'inacceptable, quoi. Mais
alors que de l'extérieur, c'est elle qui a 2 portables, 3 tablettes, 4 trucs. C'est-à-dire qu'elle a tous les ingrédients pour être justement la working girl qui trahit, qui ment et qui a une double vie. Or, c'est celle qui est la plus rectiligne
possible. Et elle a une double vie parce que je peux pas dévoiler la fin du film. Voilà où est sa double vie.
Ah oui.
Voilà. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Non. Eh ben si, ça se tient. Ouais. Mais ça se tient. Moi, j'y ai pensé toute la soirée après la projo, moi, ce film.
Elle a une double vie.
Je me suis fait plein de théories. D'accord. Non, je suis inattaquable.
Elle a une double vie au sens...
Voilà.
Ah, oh, ouais, d'accord. Ok, voilà. Tu veux pas spoiler. J'ai compris.
Bertrand Lejean. C'est hyper étrange. C'est pas un film d'espionnage. Hein. Enfin, je vous le dis.
Non, on peut pas divulguer la fin du film.
On n'a pas parlé de Kevin Spacey.
De toute façon, la solution est dans le 2.
Bertrand Lejean, vous êtes professeur en sciences de l'information, de la communication à l'Université Paris 13, à Villetaneuse. Vous dirigez.
Vous avez problème de digestion ou pas?
Le master politique éditoriale. Vous allez publier en mars ce que le numérique fait au livre, carrément, aux éditions Presse Universitaire de Grenoble, puisque c'est aussi l'un des sujets abordés dans ce film d'Olivier Assayas. Est-ce que le livre papier est mort et va laisser sa place au numérique?
Ça fait une trentaine d'années que le discours sur la mort du livre circule. À ma connaissance, le livre n'est pas mort du tout, il se porte même plutôt bien, même si la situation n'est pas très facile. Mais en tout cas, ce discours sur la mort du livre, il a été beaucoup porté, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, par les industriels du numérique. Absolument. Les fabricants de CD-ROM dans les années 90, tout d'abord, et puis plus récemment, les fabricants de tablettes et d'ordinateurs de manière générale.
Et les fournisseurs, les FAI, les fournisseurs d'accès Internet.
Les fournisseurs d'accès Internet. Cette mort du livre, évidemment... C'était un argument de promotion du numérique qui était tout à fait idéal, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça.
Pour la musique, comme pour la radio aussi, comme pour la télé, où on dit tout ça, ça va mourir pour laisser Internet.
Et que ça vit encore. Alors, dans le cas de la musique, les choses se sont passées autrement. Hein. C'est vrai que le support disque a passé de très mauvais moments, mais le support papier pour le livre est loin d'être mort. Le numérique n'est pas aujourd'hui une affaire oubliée, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans une situation où le numérique aurait tué le livre et les éditeurs.
Il y a des phrases, et c'est aussi la force du film, où on se retrouve vraiment dans une discussion que l'on pourrait avoir avec des amis, c'est-à-dire d'entendre que c'est moins cher en numérique que d'acheter un livre, une liseuse c'est pratique, on peut partir en vacances avec toute une bibliothèque.
Et
plutôt
pourquoi
que d'avoir
partir
le
avec toute cette bibliothèque, voilà. Dit le personnage de Juliette Binoche.
Donc la notion de tarif.
Le numérique est moins cher, c'est vrai, en gros entre 20 et 30% moins cher que le prix du livre papier, mais il reste plus cher par exemple que le livre de poche. On a en France une spécificité très forte avec le livre de poche qui permet d'accéder au fond de toute la littérature française, et même au-delà de la littérature.
Sauf que pour le payer moins cher en numérique, il faut avoir les outils qui, eux, coûtent beaucoup plus cher, les tablettes, les liseuses et autres ordinateurs.
Et qui finissent par tomber en panne un jour ou l'autre.
Obsolète.
Obsolescence programmée. La gamme des tablettes est assez large, hein, d'abord en performance technique et en prix également. En gros, on est entre 70€ dans le bas de gamme et autour de 300-350 quand on monte en fonction des formats, de la qualité des écrans et de l'espérance de vie de ce matériel.
Est-ce que on lit plus, parce que là aussi la question est posée dans le film, comme quoi ce ne sont que les femmes de plus de 50 ans qui lisent les livres et que les jeunes lisent de moins en moins et ils sont sur smartphone et
Là je pensais à Yann Moix.
moins.
Elles ont du temps après, Yann Moix, c'est pour ça, elles disent plus.
Je crois qu'il faut se garder de ces généralités qui ne rendent pas bien compte de...
Non, est-ce qu'il y a une cible à peu près identifiée du lectorat français et où il y a la plus grosse partie, en fait.
Ce que l'on sait, c'est effectivement, ça va un petit peu dans le sens de ce que vous dites, Nagui, c'est que le numérique est surtout pratiqué pour des littératures de genre. Mm-hmm. Donc la fantasy, la romance, ce genre de littérature, beaucoup. Et puis, au-delà de la littérature, dans le domaine scientifique, éducatif, références, encyclopédies, etc. Mais dans la littérature, c'est surtout la littérature de genre qui est lue en numérique, l'érotique évidemment aussi, puisque voilà, on peut lire sans montrer ce qu'on lit. Il y a un petit côté confidentiel là, qui fonctionne bien.
Vous avez les titres?
Non, mais il a le lien.
Hors antenne.
Est-ce que les auteurs ont quand même des droits d'auteur en version numérique?
Mais bien sûr. Là, c'est une question importante et la réponse est un petit peu plus compliquée. Si j'ai 30 secondes, j'essaie de répondre. Les contrats d'auteur incluent l'exploitation numérique. Très clairement, donc il y a des droits numériques qui sont perçus. Ils sont moins importants puisque le prix de vente du numérique est moins important que le prix de vente du livre papier, mais c'est le même principe d'une indexation, d'un pourcentage sur les prix de vente. Là où les choses se compliquent, il faut en parler un peu, c'est quand on s'intéresse aux pratiques de certaines structures éditoriales, on hésite un peu à les qualifier ainsi, qui font de l'appel sur les droits d'auteur et qui proposent des droits d'auteur beaucoup plus élevés que les 10% qui circulent en moyenne. On voit parfois des propositions d'éditeurs, appelons-les comme ça quand même, qui proposent des droits d'auteur à 60-70%, ce qui ne correspond à rien du tout. Et en fait, c'est une manière de dissimuler des pratiques d'édition à compte d'auteur, puisque ces structures-là font payer aux auteurs du travail éditorial qui normalement est à la charge de l'éditeur. Elles se rémunèrent sur cette facturation-là, pas du tout sur les ventes, puisque ces structures-là ne sont pas du tout intéressées par les ventes des bouquins de ces auteurs.
Tout livre sortant en papier a sa version numérique maintenant ?
Quasi systématiquement. Je ne dirais pas de manière tout à fait radicale, ouais. mais la pratique va vraiment dans ce sens-là, oui, tout à fait.
Et ce qu'on dit pas, c'est qu'aussi tous les grands classiques de la littérature française, eux, sont accessibles gratuitement en ligne, puisque même si l'édition n'est pas, ça dépend de l'édition,
mais
en tout cas,
c'est
tombé dans le domaine public, donc on peut avoir accès à un certain nombre de grands textes de façon numérique, si on le souhaite.
Alors, ils sont dans le domaine public, donc effectivement, ils sont accessibles sans droit d'auteur. Là, ça, c'est une caractéristique du domaine public. De là à dire qu'on les trouve gratuitement, ils sont quand même édités. Donc il y a plusieurs éditeurs peuvent proposer les mêmes titres. Hein. Si vous cherchez Madame Bovary, vous la trouverez chez plusieurs éditeurs.
Alors si c'est pas gratuit, souvent c'est 1€, 2€.
Enfin, c'est un prix très modeste.
Et la mode alors des livres lus par des grandes voix, par des actrices ou des acteurs, ça aussi c'est évoqué, l'audio.
Oui, alors c'est le...
C'est évoqué dans le film ?
Oui, tout à fait. C'est le phénomène qui monte actuellement. Après, étonnamment, des années, voire des décennies, où le livre audio a fait l'objet de plusieurs tentatives de différents éditeurs, et puis
ça a ramé un peu, oui.
Parfois fait beaucoup plus que ramer, a sombré à certains moments. Et puis là, le numérique, effectivement, a beaucoup changé les choses, puisqu'il a permis, visiblement, un vrai démarrage du livre audio.
Ce qui permet d'ailleurs au film d'Olivia Salles de faire une mise en abîme, un clin d'œil extrêmement sympathique dans une scène finale. On vous laissera le découvrir au cinéma. Vous avez été lectrice, vous avez fait un... Vous avez
lu
un livre.
Oui, j'ai lu un livre de Christiane Singer qui a écrit son dernier livre au moment où elle avait un cancer et elle a voulu témoigner. Donc j'ai lu ce témoignage qui était magnifique. Elle s'est arrêtée peut-être 15 jours avant sa mort, quelque chose comme ça.
Vincent, on vous a demandé aussi de lire un livre, de faire de l'audio
Non, jamais. Non, jamais demandé.
Vous aimeriez ? Il y a un titre en particulier
La Bible ?
La Bible.
Truc court, quoi.
Non, mais j'ai commencé à essayer d'écouter en fait, un livre en audio et j'avoue que j'ai eu du mal à m'accrocher à ça. Je préfère lire...
d'avoir l'objet, ouais.
Enfin, je veux dire.
Est-ce que, pour en revenir au numérique, Bertrand Legendre, est-ce que les auteurs, dans leur manière d'écrire, changent soit le format, soit la longueur des lignes ou des chapitres, ou même des livres? Est-ce que ça a une influence? Est-ce que le support a une influence sur l'art?
Je ne le dirais pas de manière générale. Ce qu'on a vu apparaître, c'est des formes d'écriture qui viennent du blog, du SMS, des mails, par exemple, hein, qui sont retravaillées par des éditeurs. Et puis également l'écriture collaborative via les plateformes d'écriture. Ça, c'est un phénomène qui est tout à fait important. Mais là encore, on rejoint souvent des littératures de genre.
Ça permet de faire émerger aussi des auteurs que le grand public ne connaît pas par justement ces niches de littérature de genre.
Oui, tout à fait. L'écriture numérique sert un peu de vivier aux éditeurs, mais ne nous trompons pas, les auteurs qui émergent de ce dispositif sont très très peu nombreux par rapport aux milliers de candidats.
On vous lira. En tout cas, vous êtes publié aux éditions Presse Universitaire de Grenoble, ce que le numérique fait au livre. Merci Bertrand Legendre d'avoir pris le temps de venir à ce micro et de nous éclairer. Tanguy Pastureau, j'ai quand même un style vestimentaire approximatif.
Oui, je sais Tanguy, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous séparer de certaines de vos fringues, vous en servir comme plaid à mettre sur un poney. Parce que la mode est au naturisme urbain. À Paris, après l'expo naturiste, le resto naturiste, l'espace naturiste au bois de Vincennes, arrive dimanche la première pièce de théâtre naturiste.
Avec Leïla Guérin-Boudéli, Daniel Morin,
bonjour, Leïla.
Albert Albon, Tanguy Pastureau, Frédéric Sigrist,
bonjour.
Et nos invités Juliette Binoche et Vincent Maquet. Bonjour. Pour parler de ce film d'Olivier Assayas qui sortira ce mercredi 16 janvier, c'est votre combientième Assayas, Juliette Binoche?
Quatrième film, c'est le troisième, et il a écrit deux scénarios dans lesquels j'ai joué. Ouais. Rendez-vous et Alice et Martin d'André Téchiné.
Et vous, Vincent, c'est la première fois?
La première fois. Je ne savais pas.
C'est votre première fois aussi avec Juliette?
Oui.
Alors comment ça se passe?
C'est impressionnant.
Ça on le sait justement, mais c'est là où elle est géniale, c'est que c'est un génie qui se partage.
Mais c'est vrai que elle est géniale aussi parce que elle est, ce que tu disais sur Dalai Lama, quand on travaille avec Juliette, elle est impressionnante d'une forme d'humilité. Enfin, elle met tout le monde à un égal. Donc c'est très joyeux.
Vous étiez
moi j'avais peur parce que
voilà ce que j'ai impressionné vous
tous ces films qui sont quand même des films même de Carax, enfin je sais pas, c'est tout ce qu'elle représente, enfin excuse-moi de c'est bizarre, et du coup c'est évident que c'est un peu fou quoi.
Et le quand c'est un peu comme au tennis ou dans un sport d'échange, le jeu, quand l'autre vous renvoie justement un regard, des intentions et un jeu, c'est tout aussi agréable que...
Ah bah c'est agréable, mais parce que je pense qu'elle est géniale parce que elle travaille et qu'elle est avec les autres et que elle fait le film, elle défend le film. Enfin, excuse-moi, je.
Mais Vincent, Vincent, ce que vous avez dit, non, mais elle n'est pas là. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur, et c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si justement ce film étant tellement écrit, si la scène que vous aviez, enfin l'une des scènes, parce que vous en avez beaucoup où vous êtes tous les deux, notamment dans la rue. J'aime beaucoup cette scène où chacun trompe entre guillemets son conjoint, sa conjointe, et vous embrassez dans la rue. Elle le vit très bien. Par contre, vous jouez extrêmement bien le mec qui regarde quand même à droite et à gauche, si c'est pas fait gauler par un regard.
Oui, parce que t'étais gêné.
J'étais gêné, ouais.
Et c'est vrai que j'étais gêné que je l'embrasse parce qu'il s'y attendait pas. Je l'ai surpris.
C'est Juliette qui a eu cette
idée. C'est ça qui est génial, c'est que dans son jeu et dans l'absence de Didascalie, il n'y avait pas marqué elle va l'embrasser, donc vous n'étiez pas prêt à ça. Dans son jeu, elle vous permet aussi.
Ah oui, c'est vrai que je te jouais parce que je sais qu'il est nerveux.
Fais attention, je vais t'embrasser.
mange pas d'oignon, Catherine.
Parce que c'est pas par rapport à ça.
Pourquoi fais attention? Je vais t'embrasser, fais attention.
Parce que je voyais Vincent était un petit peu fébrile, donc c'était pour le rassurer un peu en lui disant de par la situation, de toute façon c'est comme ça. Mais la scène dans le lit aussi, ça a été toute une affaire parce que d'abord elle n'était pas écrite comme ça et à un moment donné Olivier a dit oui, vous serez en t-shirt, bisous, puis tu t'en vas du lit. Ça, j'ai dit mais non, ils ont une relation.
il faut qu'on on y croit à ce couple-là. Donc j'ai dit, moi je vois pas comment on peut ne pas être nu déjà.
D'autant que pendant les quelques premières secondes, on se demande qui est là.
Qui est
quoi.
Qui
oui, voilà. Mais c'est lui qui l'a créé. Après. C'est Olivier Assayas qui l'a créé.
Qui est qui parce qu'il y a quelques cuisses, il y a une cuisse poilue et tu dis ok c'est pas.
Non, j'ai dit Olivier,
tu sais pas quelle femme. On ne sait pas quelle est la femme qui est dans ses bras à ce moment-là.
Oui, mais c'est vraiment Olivier qui l'a créé cette situation-là parce qu'au départ, comme il voulait, c'est par pudeur et gêne et tout ça, et Vincent est encore plus gêné que Olivier. Donc je lui dis, on est mal barré entre deux. Donc je lui dis non, il faut que tu inventes une scène où on croit à ce couple-là. Et il m'a dit bah, laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi. Et après, 10 minutes après, il est revenu en disant, écoute, tu vas être enlacé dans les bras de Vincent et t'essayes de t'en sortir. Et lui, Vincent, veut pas te laisser sortir. Ouais. On est à moitié endormi, sauf que moi, j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Et donc, cette scène a été créée comme ça. Et c'était vraiment... Alors, c'était difficile, parce que pour enlever le caleçon de Vincent, je vous dis pas. C'était toute une histoire très pudique.
Non, mais
donc, je n'enverrai rien, je t'assure. Et je t'ai convaincu quand même.
Oui, mais tu m'as forcé à l'enlever, hein, à un moment donné.
C'est bien ça.
Ah, c'est dur comme métier.
Parce qu'on se met au service de la scène, de l'histoire, de la situation du personnage. Donc, il y a, c'est vrai, une humilité à avoir. Se mettre au service d'un...
Vous, en l'occurrence, vous ne posez pas la question de votre nudité.
Je me pose la question de comment est-ce que je peux être le plus vrai et rendre le plus service possible au film. Donc, c'est ça.
Ça marche. De ce côté-là, il n'y a pas de débat. Ça fonctionne extrêmement bien.
Je fais confiance au chef opérateur qu'on est bien éclairé, etc.
Ce qui a été le cas. Tout est suffisamment rapide, discret pour que l'on comprenne la situation sans que ce soit une scène de voyeurisme et d'exhibitionnisme.
Ça m'a sorti du film un peu quand même, moi.
Non, et puis aussi parce que au moment où je
ce sont les fesses de Guillaume Canet qui sont sorties du film.
Elle est très drôle. Ça m'a fait rentrer dedans plutôt.
Parce que pour que la séparation entre le personnage de Vincent et le mien soit forte, il était important qu'on sente que c'est un couple charnel qui s'amuse, qui s'aime. Sinon, il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Sinon, ça sort de rien du tout, quoi, du chapeau. Tout d'un coup, si je me mets à pleurer et que lui aussi, on doit le croire, on doit y croire.
Et même, dans le côté d'être entremêlé comme ça, l'un avec l'autre ou l'un dans l'autre, donne quelque chose d'habituel, de câlin et pas de mécanique. C'est
une histoire d'amour.
Voilà,
ouais.
C'est pas un truc de baise avec. On a fait ce qu'on avait à faire, on rentre, mais c'était un truc de câlin, de jeu. Quoi,
et ça contraste aussi avec l'affection qui est assez absente finalement dans vos couples officiels. Nora Hamzaoui, son personnage, elle ne vous embrasse même pas, elle ne vous touche même pas. Non, c'est vrai, il n'y a pas de contact.
C'est pour ça que j'ai risqué.
C'était chaud. Hein.
Voici Tanguy Passion. Justement, nous parlions de nudité. Chaque année, Tanguy, le naturisme gagne du terrain.
Oui, c'est le grand remplacement. Nous, les gens habillés, avec plus ou moins de bonheur. Je repense avec effroi à la fois où Daniel Morin est venu en doudoune une manche, avec en dessous la chemise de bûcheron du grand-père de Rock Voisine. Nous, les textiles, peu à peu disparaissons, comme l'ont fait autrefois les rhinocéros, les fans de Scheim ou les gens de gauche. Il en reste 330 en tout, dont 329 à Radio France, plus un à l'extérieur de Radio France, un mec qui a oublié son badge d'accès et n'a pas pu entrer. 2018 fut l'année du naturisme. À l'espace naturiste du Bois de Vincennes, des gens ont fait du yoga nu. C'est la même chose qu'habillé, sauf que quand on est en position du lotus, on voit le lotus. Mai 2018, le Palais de Tokyo a organisé une visite nudiste d'une expo. L'inverse de d'habitude. Dans les musées, on a des fringues, on regarde des gens nus. Parfois, c'est un Picasso, donc les épaules sont au-dessus des sourcils à droite du coude. On a l'impression de voir un journaliste de BFM après qu'il a croisé des gilets jaunes. En juin, un club des Quai de Seine a fait une soirée électro-naturiste. Le genre de trucs où les Daft Punk pourraient débouler avec un casque et rien d'autre. Il y a même eu l'ouverture d'un resto naturiste à Paris. Un qui là va fermer faute de clients. Ouais. Certains quinquagénaires un peu bedonnants étant pris par d'autres clients pour des rôtis de porc en sauce. Il y a de gros accidents de fourchette. Mais toutes les activités naturistes sont sur Paris. On le dit pas pour pas attiser la jalousie des autres, mais ici tous on vit nu. Pas besoin de baromètre, on a nos parties génitales. Dès que le froid arrive, on le sent. À 10h59, on enfile des fringues prêtées par France Inter. Nagui, qui arrive au dernier moment, prend ce qui reste, d'où son look. Et à 11h, quand les mecs du web démarrent les webcams à la manivelle, on est sapé. À midi et demi, on retire tout. Sybille Veil, boss de Radio France, nu, déroule un tapis de lichen et on se frotte dessus en criant « ça fait du bien d'être en osmose avec la nature ». Leïla, quand elle fait le 13h, ne s'habille que par convention et parce que Laurent Delahousse lui-même est habillé. Il refuse d'être nu puisqu'il a la flemme de se faire des reflets man color sur le pubis afin que ce soit raccord avec ses cheveux. Mais moi, ce week-end, j'ai joué à Mulhouse, mais là-bas, tout le monde est habillé. Du coup, sur scène, j'ai gardé mes fringues. Je vais avoir des 1 sur 5 sur billets réduits au lieu des 6 sur 5 lorsque je joue nu. Fini les commentaires disant un talent énorme, un spectacle très bien fait. Et là, toujours à Paris, dimanche prochain, a lieu la première représentation théâtrale naturiste. Tant pis pour les ouvreuses qui, du coup, auront 0 euros de pourboire. Seuls 2-3 satyres vont leur filer des pièces en disant « j'ai pensé à mettre ça de côté, je suis heureux de m'en débarrasser parce que c'est inconfortable ». La pièce s'appelle « Nu » et approuvée, c'est au Palais des Glaces. Les comédiens seront nus, le public aussi. On va dire aux spectateurs « merci de bien vouloir retirer vos téléphones portables et éteindre vos slips » ou le contraire. Et ce sera parti, Nagui.
Mais ça porte quoi d'assister à une pièce de théâtre nue ?
Eh ben d'abord, c'est l'assurance que personne ne va aller aux toilettes pendant la pièce. Parce que quand on est habillé, si vous êtes en bout de rangée, vous passez votre vie à voir défiler les hucs de tous les membres du club de la prostate en bout de course. Nu, les gens n'oseront pas. Et ensuite, on se sent libre. Nagui, vous n'en savez rien. Vous avez fait toute votre carrière habillé. La seule fois où chez vous on a vu des tétons, c'est quand Iggy Pop est venu chanter à Taratata entre deux vomis et cette seringue. Et puis nu, on est égaux. Si Jean-Michel Apathy était à poil, mais il n'y aurait pas cette haine du peuple contre la presse. Car la fringue est un marqueur social. On accorderait juste une dérogation à Christophe Barbier pour son écharpe, parce que s'il l'enlève plus, personne ne le remet. C'est comme le string de Zaya, sauf que lui n'enfonce pas son écharpe dans sa bouche, heureusement parce qu'on l'entendrait plus dire n'importe quoi. La première des inégalités, c'est la sape. Si tout le monde retire tout, qu'on soit Nagui, Pastureau ou les gens en situation de précarité qui constituent le public de la bande originale, on est pareil. Mais moi, le grand débat national, je mets Macron tout nu à Versailles, pas dans le château, hein, sur le quai de la station RER, à côté de Griveaux, le sexe masqué par un bout de sa porte défoncée, et là, finit l'image de président des riches. Il pourra discuter d'égal à égal avec les gilets jaunes, enfin, avec les torse-poils, parce que ceux-là aussi, je les mettrais nus. Mais par pitié, observons les singes, nos cousins plus doués que nous. Les bonobos, pour régler leurs conflits, ils portent pas de calbut. Ils sont nus, font l'amour, et c'est ok. Netanyahu et Mahmoud Abbas, pardon, mais vous les mettez un quart d'heure dans une backroom avec du poppers et un poster de la seule juive arabe, Shoshana Abdesemed, nue, bah leur conflit millénaire, les régler. Seulement même là, les inégalités perdurent. Lors de cette pièce, les gens en catégorie 1 disposeront d'une serviette en microfibre pour se nettoyer après. Parce que les théâtres parisiens, c'est dégoûtant. Hein, 300 ans que des gonzes posent leurs fesses dans les mêmes fauteuils crado. Là-dessus, il y a des acariens qui datent de Molière. S'ils pouvaient parler, ils diraient « on a connu Gérard Collomb jeune ». Alors que ceux qui ont les places les moins chères n'ont pas de serviette. Rien. En une heure, ils meurent, terrassés par le même virus qui a signé la fin du mammouth laineux. C'est-à-dire que même le naturisme, le truc le plus égalitaire du monde, un corps, c'est un corps, même ça, ça a été dévoyé. Et en plus, payer plus cher pour être au premier rang alors qu'on va voir des acteurs nus, il faut être sûr qu'on n'est pas sur une pièce avec Roland Giraud et Amanda Lear. Hein, sinon, autant juste lâcher 2,30€ et être derrière le poteau. Allez, plus qu'un quart d'heure et on retire tout.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Il doit y avoir plusieurs salles au Palais des Glaces parce qu'il y a Sophia Aram aussi qui joue là-bas et à mon avis, elle est habillée.
Non, une seule salle.
sur scène. Lorsque Olivier Assayas vous a présenté le projet Juliette Binoche, il vous a dit exactement dans sa manière de travailler, parce qu'en fait, c'est un projet, il l'a expliqué dans une interview, qu'il avait porté depuis plusieurs années, une quinzaine d'années, je crois.
Autant, mais il avait écrit déjà un scénario, 2000, il n'avait pas réussi à le monter financièrement.
Plus dramatique.
Et puis après, il a repris le scénario en laissant l'écriture faire ce qu'elle doit faire, sans avoir une structure, voilà, une colonne vertébrale de son histoire. Il s'est laissé gagner en fait par voilà, scène après scène, et il a vu qu'à l'arrivée, il avait quand même un film qui tenait le coup et qui avait un sens.
Et il a compris apparemment lors de la première scène, celle que vous jouez, Vincent Macaigne, avec Guillaume Canet, qui est votre éditeur à la fois pote, à la fois éditeur, vous attendez de savoir ce qu'il ressent à la lecture de votre manuscrit. La scène se passe dans un troquet parisien, vraiment en prenant le plat du jour.
La direct. Cantine, quoi.
Ouais, la cantine. Ouais, et encore, il prend une entrée en plus du plat. Il est malin, il sait qu'il va pas payer.
Donc il gratte. Oui, c'est vrai.
Il gratte, on voit la tête, il est parfait. Guillaume Canet, tu veux du vin peut-être pas en plus. juste parfait. Mais ce genre de scène très très Claude Sauté comme ça, très cinéma aussi vivant italien, ça doit être agréable, ça se voit en tout cas que c'est agréable à jouer.
Ouais, c'est super agréable. Et puis c'est des scènes où il y a beaucoup de non-dits. C'est assez génial de faire deux séquences comme ça où deux personnages se parlent et se disent jamais le vrai truc. Et on attend avant de savoir s'il va l'éditer ou pas. Alors maintenant, tout le monde le sait.
Non mais la scène suivante où il dit d'ailleurs t'as pas compris, je ne vais pas t'éditer.
C'est génial de pouvoir jouer ça. Ouais. Le non-dit, c'est génial.
Mais alors justement, est-ce que dans ces scènes-là, on peut s'y reprendre à plusieurs fois? Il peut y avoir 5, 6, 10 prises. Est-ce qu'on... Je sais que c'est le talent d'un acteur d'être plusieurs fois naturel. Mais est-ce que de la faire un nombre de fois incalculable ne vient pas abîmer une espèce de fraîcheur?
Non, j'ai pas l'impression, mais ça dépend des scènes. Enfin, des fois, on en fait.
Et comment travaille Assayas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a 20 prises de chaque scène?
En tout cas, la première scène du film où j'arrive dans le bureau, c'est la première fois que je rencontre Guillaume Canet, moi.
De votre vie,
parce qu'on n'est pas d'accord, apparemment, mais. Ouais. Ouais.
Comment ça, vous n'êtes pas d'accord?
Parce que lui dit qu'on s'est croisé. J'ai vu une interview, il dit qu'on s'est croisé dans une sorte de camion maquillage, mais je n'ai pas de souvenir de ça. Parce que pour moi, la seule fois que je l'ai vu,
il était très bien maquillé. Mais...
Du coup, la première fois que je le vois, moi, dans ma vie, en fait, à moi, c'est en jouant. Que je suis arrivé sur le plateau, il me dit allez, viens, on est prêt pour tourner. Et donc là, il y avait une porte fermée. Pardon, il ouvre la porte, il rentre.
Il n'y a pas de lecture avant, il n'y a pas de rencontre entre les acteurs?
Rien.
Ah bon, excusez-moi, je croyais.
Oui, on réunit pas l'équipe.
Ça dépend des films. Mais avec Olivier, non, même on répète même pas, on tourne directement.
Ah. Du coup, il y avait une porte fermée. L'équipe de tournage était derrière la porte. Il y avait juste Olivier qui était devant la porte. Il me dit rentre, frappe et rentre. Et du coup, j'ai frappé.
Il voulait se servir de cette fraîcheur-là pour installer une gêne dans vos rapports. Alors, tout le monde ment dans ce film. C'est à croire que personne n'est vraiment sincère dans la vie.
Enfin, moi, je mens à mon mari. Enfin, je sais très bien qu'il
le sait. J'ai compris que pour vous, c'était pas un mensonge. Mais...
Je sais qu'il le sait. Et je pense que lui aussi a quelque chose derrière la porte. Mais c'est pas dit, mais on le sait. Mais on continue ensemble parce que on a un enfant, parce que on est bien ensemble.
Oui, ça n'empêche pas d'autres moments de vérité par ailleurs.
C'est bizarre, hein. C'est des choix bizarres.
Ça veut dire que quoi? Que la vie est un jeu où chacun joue un rôle, et puis c'est une espèce de château de cartes.
Vous savez.
Mais non, mais j'insiste. Vincent, je trouve que le film, en fait, les gens, tous les personnages mentent, mais en effet, ils sont le film. Tous les personnages sont plus grands que leurs mensonges, et je trouve que ça réconcilie quelque chose. Quand j'ai vu le film, je me suis dit tiens, on dépeint une société, enfin des gens comme ça qui se mentent, qui se trompent, mais le film dit aussi est doux avec ses personnages, est tendre et les aime. Et du coup à la fin, moi je suis sorti du film personnellement la première fois que je l'ai vu.
L'humain est plus fort quoi.
Ouais. Avec quelque chose d'assez lumineux, assez joyeux en fait.
C'est ce qui va changer maintenant puisque voici Daniel Morin.
Mais quelle ordure. Comment peut-on encore dire que la France a perdu le goût de l'écriture? On n'arrête pas avec les films qui se déroulent dans le monde de l'édition. Tenez, aujourd'hui encore, Double Vie, on n'arrête plus. Et ce n'est pas vrai, tous les Français ne se contentent pas d'envoyer des textos, ils prennent la plume. Regardez hier soir, le président Macron en personne a pris la peine de nous envoyer une lettre. C'est hyper gentil de sa part. Alors il dit quoi dans sa lettre? Il commence en disant « La France n'est pas un pays comme les autres ». Waouh, déjà grosse info pour commencer. Bim, bam, d'entrée, il tape fort le président. Non mais c'est important de commencer par une info coup de poing comme ça et pas par une banalité qui laissera entendre que la suite de la lettre va être sans intérêt. Alors le président évoque les mécontents, il dit qu'il comprend. Mais que l'ISF ne sera pas remis en question. Il va écouter les Français avec son grand débat national, un débat très ouvert où tous les sujets pourront être évoqués, sauf ceux que non. Bref, une gentille lettre. Un peu chiante, c'est vrai, mais c'est sympa de nous écrire. Bon j'ai fait quoi moi? J'ai reçu une lettre. Je suis poli. J'ai répondu. Quand quelqu'un vous écrit, la moindre des choses, c'est de répondre. C'est pas facile de répondre au président de la République. Monsieur le président. Ah non, trop formel. Monsieur Macron. Ah, trop informel. Monsieur Emmanuel. Oh non, ça fait coiffeur. Manu. Non, trop familier, il aime pas ça. Oh merde, tant pis. Monsieur le président de la République, j'ai bien reçu votre lettre et je vous remercie de vous intéresser à moi. Même si je sais que vous savez que je suis quelqu'un d'important, puisque régulièrement je suis assis à la même table que Juliette Binoche. Comme vous le savez, en tant que fidèle auditeur de France Inter, je suis un soldat du service public toujours prêt à dénoncer l'injustice, sauf si bien sûr elle vient du gouvernement, gouvernement qui en son sein compte le ministère de la Culture, ministère de la Culture étant le ministère de tutelle de la radio publique et donc mon employeur. Alors déjà, pour vous rassurer, monsieur le président, je vais bien. Pour l'instant, je zigzague plutôt habilement entre les crises de grippe et de gastro qui frappent le pays. Ok, je fréquente Nagui tous les jours, mais ça va. Je crois que je m'y fais. Et franchement, il y a pire ailleurs. Comme vous le savez sûrement, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, le moral des Français est au plus bas. Et c'est là le point de départ du mal-être que traverse la France, ce pays qui n'est pas comme les autres, comme vous le dites si bien. Si vous voulez savoir d'où ça vient, et sans vouloir dénoncer qui que ce soit, je vous conseille simplement de jeter une oreille sur Grand Bien Vous Fasse, sur France Inter, l'émission d'Ali Rebéi. Là, vous comprendrez rapidement d'où vient cette détresse du peuple. Tenez, sans remonter loin, écoutez le sujet de ce matin.
Coup de projecteur sur le microbiote de l'intestin, c'est-à-dire la flore intestinale.
Mais pas étonnant que la France ait la tête dans le seau. Si de matin on lui propose des problèmes, on lui parle de ses problèmes d'estomac et de transit. Et les sujets sont vastes, hein. Pour qui le thème de l'habitation, du logement, donc du foyer est important, c'est dangereux d'écouter Ali. En tout cas, ça rassure pas, la preuve.
Saviez-vous que des écoles, des maisons, des immeubles d'habitation sont construits sur des sols pollués ?
Sur des sols pollués, voilà, il fait flipper tout le monde. Monsieur le Président, je crois que c'est assez clair, s'il y a un coupable en France, c'est lui, c'est Ali. Si les gilets jaunes sont descendus dans la rue, à mon avis, il n'y est pas pour rien. Une fois que le moral des Français sera remonté, vous verrez que tout ira mieux. Les Français ont besoin d'être rassurés, mis en confiance, retrouver la patate, quoi. Et que ça, quand t'écoutes Grand Bien Vous Fasse, tu la retrouves pas, la patate. Lui, Ali, c'est la loose qui l'intéresse. Vous ne me croyez pas ?
Si vous avez du mal à être ambitieux, n'hésitez pas à témoigner.
Et ben voilà, et continue, la déprime. Bon ben là, je crois que c'est clair, tous les problèmes que connaît le pays, c'est Ali. Alors, à propos du grand débat national, vous dites que dans les sujets qui ne seront jamais remis en question, il y a le retour de la peine de mort. Eh bien, je dis dommage. Quand on voit ce que M. Ali fait au pays, je pense qu'on peut légitimement se poser la question d'un retour à la peine capitale. Sinon, à part ça, j'adore tous mes collègues, France Inter est une grande famille, mais n'oublions pas pour autant nos valeurs et notre folklore en France qui ont toujours su mettre en avant les avantages de la délation. Voilà, Monsieur le Président, si vous voulez qu'on se voit pour dîner, pour prendre un verre, afin de parler plus en détail de mes visions pour le pays, sachez que je me tiens à votre entière disposition du lundi au vendredi à partir de 12h30. Bisous, Monsieur le Président. Voilà, Nagui, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'espère que mes suggestions vont un peu éclairer le Président. À demain.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Double vie au cinéma ce mercredi, le nouveau film d'Olivia Sayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent McCain s'ajoute tellement bien et en plus de savoir comment vous avez travaillé, pas de répétition, l'écriture comme ça, pas d'intention, chacun construit son personnage et chacun vit la scène, la situation en fonction de l'échange fait avec l'autre, ça me donne presque envie maintenant de retourner le voir une deuxième fois. Précisons la présence de Nora, notre copine Nora Hamzaoui également qui est dans ce film. Ça sort mercredi, ça sera le 16 janvier, 15 jours après Juliette Binoche. Vous serez la présidente d'honneur de la cérémonie des Globes de Cristal le 4 février. Vous présiderez également le jury de la compétition long métrage de la Biennale qui se tiendra du 7 au 17 février. Puis côté cinéma.
À Berlin, c'est la classe.
Berlinale.
C'est la classe absolue.
Et puis, oui, mais on sait déjà que c'est pas elle qui va choisir les robes qu'elle va porter.
Oui.
Le 27 février, vous serez à l'affiche de Celle que vous croyez de Safi Nebbou avec Nicole Garcia et François Civil. Vous y êtes quel personnage ?
Il y a 5 personnages à l'intérieur qui est.
Ah, vous jouez 5 personnages ?
C'est vraiment une, la poupée russe. Ouais.
D'accord. On vous retrouvera dans La Vérité de Kore-eda également, qui raconte les retrouvailles d'une icône du cinéma, Catherine Deneuve, avec sa fille, vous.
Ouais. Scénariste.
C'est un drame, c'est une comédie ?
Non, c'est plutôt comédie, mais avec cette dimension dramatique aussi. Sinon, il n'y a pas de poids. Il faut un peu de poids, sinon on ne peut pas s'élever.
Il faut aller voir Une Affaire de Famille de Kore-eda qui est encore à l'affiche, qui est un petit
magnifique
bijou. Et là encore, on sort vraiment avec cette envie d'être heureux, joyeux. Il y a un truc très très beau qui se dégage de ce film que j'ai trouvé fascinant.
Qui a eu la palme à Cannes l'année dernière.
Et vous aussi Vincent McCain, vous avez joué avec Catherine Deneuve, le film sortira que dans quelques jours, c'est un joyeux anniversaire ?
Quelques jours, non, enfin je suis pas sûr quand même.
Il sort quand ? Non, je sais pas.
Je ne sais pas
encore. J'ai pas la date.
Ouais, c'est le film
Emmanuel
de Cannes.
Ouais.
Ouais, avec Emmanuel Berco, oui.
D'accord. Et vous serez également casting de Blanche comme neige avec Isabelle Huppert. Ça va au niveau des
partenaires ?
Ouais, des partenaires, vous êtes tranquille, ouais ?
Oui, oui, non, j'ai de la chance. Oui.
Et vous êtes toujours aussi impressionné ?
Ouais.
Vous avez eu des scènes nues avec chacune d'entre elles ?
Ouais, en général, à chaque fois.
Non. C'est devenu une condition pour accepter le rôle.
Je suis très pudique. Donc, Mais là, non, mais là, en fait, elle joue, Catherine Deneuve joue ma mère. Hein. Donc ça serait bah,
comme,
hyper étrange.
Comme pour Juliette Binoche aussi, pareil. Elle joue sa mère aussi dans le film.
Oui, oui, mais je veux dire, j'aurais pas pu être.
Oui, non, j'ai compris.
Enfin, le fait d'être.
Elle peut vous changer encore, je sais pas. Non, oubliez ce que je viens de dire. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour nos auditeurs zoophiles, donc fans de Nagui, qui ont été très attristés par le fait que Vincent McCain n'ait pas pu aller jusqu'au bout de son histoire d'amour avec le petit singe. Oui. Désolé pour Pierre Lescure, Juliette Binoche et Vincent McCain ont décidé de monter les marches du prochain Festival de Cannes en claquettes, chaussettes et survêtes. Le smoking Ribéry, quoi. Et désolé enfin pour le pudique Vincent McCain, oh, le pauvre, obligé d'accepter une scène au lit avec Juliette Binoche qui m'enlève son caleçon. Oh la galère, oh l'enfer, oh la violence du cinéma. Vous vous rendez compte, Vincent? Vous savez combien d'hommes ont comme rêve vos cauchemars? Alors ressaisissez-vous.
Merci Juliette Binoche, merci Vincent McCain, bravo. Au cinéma mercredi, il y a Amanda Serre sera notre invitée.